Bonjour et bienvenue dans Une Génération de Retard pour le 8e épisode du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme, parce qu'il n'y a pas le feu au pad. Salut Thomas.
Salut Thomas, et oui, bienvenue dans ce 8e épisode consacré à de nouveau deux jeux qu'on s'est mutuellement imposés, parce que c'est le concept de ce podcast, on le rappelle. On sait qu'il y a des jeux que tu n'as pas fait, tu sais qu'il y a des jeux que je n'ai pas fait, et donc pour chaque épisode, on se soumet mutuellement un jeu que nous, on considère culte, ou en tout cas important dans notre histoire de joueur, et l'autre doit donc le rattraper, et ensuite on confronte les points de vue en fonction de celui qui l'a rattrapé et de celui qui le considérait déjà comme un jeu important ou intéressant. On profite peut-être de ce début d'épisode pour signaler cette fois au début et pas tout à la fin que notre podcast est hébergé et accueilli par Semper Ludo, donc on les remercie et on les salue au passage. Semper Ludo, c'est donc un site internet de critique de jeux vidéo suisse que vous pouvez retrouver en ligne et qui a même son propre podcast aussi, le Slip, Semper Ludo Incredible Podcast. Et j'en profite également pour signaler que tu as officiellement, Thomas, rejoint l'équipe de Semper Ludo.
Exactement, avec un premier test sur un jeu dont on va parler dans le Ça joue bien après. Donc voilà,
parce que ça pour après. Tout est lié dans l'univers continu des podcasts vidéoludiques helvétiques. Donc aujourd'hui, on va parler de deux jeux et comme à notre habitude, on va les prendre dans l'ordre chronologique. Donc on va parler du plus ancien d'abord. Et cette fois, contrairement aux deux épisodes précédents, il s'agit de deux jeux qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre, parce qu'on rappelle que notre épisode 7 était consacré à deux FPS, BioShock et Doom 2016, et l'épisode d'avant,
c'était les jeux de ninja, ouais.
Avec Mark of the Ninja et puis
et The Messenger.
The Messenger.
Ouais. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, pas vraiment de lien, à part que nos personnages grimpent sur des trucs. Je crois que c'est à peu près le seul parallèle qu'on pourra faire entre les deux jeux de ce podcast.
Il est question de grimpette, mais dans deux genres de jeux vidéo bien différents, deux jeux qui sont aussi issus d'un continent différent, d'une culture vidéoludique différente. Et donc on va commencer, sans plus attendre, par parler du premier jeu, celui que moi je t'ai imposé, puisque tu ne l'avais jamais fait. Il s'agit de Shadow of the Colossus, et on en parle juste après ça. Donc voilà, Shadow of the Colossus, c'est un jeu japonais édité par Team ICO, qui est donc l'équipe d'édition de développement de Fumito Ueda, qui est un développeur de jeux vidéo devenu assez mythique au Japon, même s'il a fait très peu de jeux. Il a fait ICO tout d'abord sur la PlayStation 2 et il a fait une entrée fracassante un peu, même si le jeu ne s'était pas vendu à des millions d'exemplaires. C'est assez rapidement devenu une icône du jeu vidéo artistique indépendant avec ICO. Très peu de temps après, il a proposé un deuxième jeu qui est donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, Shadow of the Colossus, qui est sorti en 2005 aux États-Unis et au Japon un tout petit peu après l'Amérique du Nord, et il est arrivé en 2006 en Europe. C'est un jeu qui a une histoire un peu particulière parce qu'il a eu cette première sortie sur PlayStation 2 et ensuite il a été réédité en 2011 dans un bundle sur PlayStation 3 avec ICO, donc les deux premiers jeux de Fumito Ueda dans une version chacun remasterisée.
Légèrement lissée, oui.
C'est ça, avec des graphismes haute définition. Et puis, troisième sortie de Shadow of the Colossus, cette fois en 2018, dans une version intégralement remakée par le studio Bluepoint.
Ouais, à qui on doit le remake de Demon's Souls.
Voilà, notamment. Qui est habitué dans les remakes qualitatifs.
De Sony, hein, beaucoup.
Ouais, c'est ça. Donc Shadow of the Colossus est ressorti sur PlayStation 4 il y a maintenant 6 ans, ça paraît déjà loin, dans une superbe version HD, totalement remakée. Et donc après Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, juste pour terminer un peu le bilan de sa carrière, parce qu'il a fait très peu de choses, il a sorti The Last Guardian, un tout petit peu avant ce remake de Shadow of the Colossus, et donc dans les trois cas, que ce soit Ico, Shadow of the Colossus ou The Last Guardian, ce sont trois jeux qui sont des exclusivités et qui restent des exclusivités PlayStation, donc il travaille en étroite collaboration avec Sony Computer Entertainment, qui est son éditeur et son unique éditeur jusqu'à présent, donc c'est un peu un des protégés, on peut dire, de l'écurie Sony, qui propose, c'est un peu le représentant de ce que faisait Sony beaucoup il y a quelques années encore, c'est-à-dire des propositions de jeux vidéo très originales. Ils le font un peu moins ces dernières années.
Ouais, beaucoup moins.
Ouais, beaucoup moins même.
Surtout après le fait que Last Guardian ait pris, je crois, beaucoup de temps de développement.
Et 8 ans, je crois. Hein.
Que la réception critique et commerciale n'a pas été à la hauteur des attentes.
Ouais. 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 Donc voilà, c'est un peu le représentant d'une culture de développement que abandonne peu à peu Sony. C'est aussi une raison importante pour en parler aujourd'hui. Mais Thomas, comme d'habitude, on va commencer par te poser une première question, parce que comme on l'a vu, comme je l'ai expliqué, ce jeu est sorti 3 fois et bordel de merde, t'as jamais su le faire, t'as jamais pris le temps de faire ce jeu. Alors pourquoi est-ce que t'es passé à 3 reprises au cours des 20 dernières années à côté de ce chef-d'œuvre ?
Alors j'ai une excuse pour une des trois. C'est la première en date, donc celle de 2005-2006, puisque j'avais pas de PS2 à l'époque, j'avais la GameCube, ce qui fait que j'avais pas l'occasion de pouvoir jouer à Shadow of the Colossus. Je sais même pas d'ailleurs si à l'époque j'en avais spécialement entendu parler, vu que j'étais quand même dans une sphère Nintendo. J'arrive plus à me souvenir à quel moment j'ai appris l'existence de Shadow of the Colossus. J'ai moins d'excuses pour les deux autres fois, je dois admettre, parce que la version PS3 en bundle avec Ico, je l'avais acheté et évidemment, les gens commencent peut-être à me connaître, j'ai joué à aucun des deux. Donc la boîte doit toujours être quelque part sur une étagère en train de prendre la poussière. Et j'avais acheté le remake PS4 en version dématérialisée, sûrement aux alentours de sa sortie. Je l'avais lancé, j'avais dû faire 1 ou 2 colosses. Et comme très souvent avec mes habitudes de consommation des jeux vidéo, j'ai dû passer à autre chose. J'ai un peu mis de côté puis j'ai jamais pris le temps de reprendre. Mais donc, pour une fois aussi, j'ai pas dépensé 1 centime finalement pour ce podcast, puisque
t'avais déjà tout.
J'avais déjà le jeu, donc j'ai pu le lancer en dématérialisé sur ma PS5.
Donc t'as fait, pour que les choses soient bien claires, t'as fait la version remakée de 2018.
Exactement, oui, je me suis dit, tant qu'à faire, hein, on s'autorise les versions les plus récentes possibles des jeux qu'on s'attribue.
En tout cas, quand elles sont considérées comme étant meilleures que la version originale, ici c'est largement, enfin c'est pas qu'elle est totalement meilleure, mais c'est qu'elle est plus actuelle, tout simplement, elle est plus... Les plus abordables.
Rien que pour les graphismes, quand on regarde des comparaisons, les textures flagrant. Des colosses, etc. Enfin,
c'est absolument flagrant. L'adaptation, le remake, un peu comme celui de Demon's Souls, d'ailleurs, par Bluepoint, est extrêmement fidèle. Oui. On a vraiment un remake au 1 et à 1, simplement, avec une mise à niveau des standards graphiques aujourd'hui. En revanche, Ico, il n'a pas bénéficié d'un remake, lui.
Non,
donc
jamais. Donc,
le meilleur moyen,
c'est PS2 ou 3.
C'est ça, PS3, le bundle de 2011, reste le meilleur moyen pour faire Ico. Et puis Shadow of the Colossus, eh bien, était uniquement sorti sur PlayStation 4, si je dis pas de bêtises.
Mais du coup,
reste
rétro-compatible sur PS5.
C'est ça, tout à fait. Alors, Shadow of the Colossus, est-ce que tu veux nous dire un peu de quoi ça parle et ce que tu as pensé de ce jeu ?
Alors, pour faire un petit pitch, qui va être très court, puisque le jeu a une narration assez minimaliste, finalement.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, on lance le jeu et on est devant une cinématique où un jeune homme qui est sur un cheval et qui transporte une jeune fille qui semble inconsciente, en tout cas.
On ne sait pas qui elle est, hein. On ne sait pas si c'est sa
sœur. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas si c'est sa sœur, on ne sait pas. On ne sait pas si elle est morte, si elle n'est pas tout à fait morte. Donc il fait un trajet en cheval et il arrive dans une sorte de temple, de sanctuaire. Il va déposer cette jeune femme sur un autel et une voix qu'on suppose venir d'une sorte de divinité quelconque nous dit qu'il est possible de sauver cette jeune femme en l'échange d'un service qui va être de détruire des idoles qui sont présentes sur les murs du temple, des statues qui représentent des colosses. Et pour détruire ces statues, eh bien, il va falloir tuer les colosses
qu'il représente,
qui sont disséminés sur la carte de la région à laquelle on a accès.
On peut peut-être préciser d'abord que cette voix, elle est particulière parce qu'elle est composée à la fois d'une voix masculine et féminine.
Oui, avec et un en effet plus... de distorsion du son
exactement.
Assez particulier.
Donc ouais. On ne sait pas exactement quelle est l'entité, quelle est la nature de cette voix, l'origine. Et en plus
la
de ça...
La caméra se tourne vers le ciel quand cette voix nous parle.
Tout à fait.
Il y a une sorte de, je crois, un halo de lumière.
C'est ça qui apparaît à partir d'une voûte. Et la langue parlée par cette voix est une langue inventée, fictive...
Oui.
Avec des consonances japonaises.
Oui.
Et il s'avère que c'est la même langue que les personnages parlaient dans Ico, déjà. Donc
d'accord.
Il y a une forme d'univers étendu entre Ico, et en tout cas un lien entre Ico et Shadow of the Colossus. À la différence près que les consonances de cette langue parlée dans Shadow of the Colossus a quelques accents un peu plus latins. Il y a quelques tournures latines, ce qui pourrait presque nous faire penser que Shadow of the Colossus se passe dans un
Occident.
Ouais, ou en tout cas dans le passé de Ico. C'est-à-dire au temps où, dans l'univers d'Ico, on parlait une version un peu plus ancienne de la langue, comme le latin est un peu l'ancêtre du français. Mais bref, je te laisse continuer.
Non, j'avais à peu près fini pour ce qui est du pitch, puisque après le jeu va se dérouler donc comme un jeu d'aventure à la troisième personne. On va diriger notre personnage qui d'ailleurs quand j'ai fait mes petites recherches après coup a un
Wander.
Oui. Donc qui va devoir aller chercher les colosses qu'il doit tuer les uns après les autres. Donc ça s'apparente en un sens qu'à une sorte de boss rush, mais avec quand même un trajet entre chaque ennemi. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour ce qui est de l'histoire et du contexte, puisque c'est à peu près tout ce à quoi on a droit. Hein.
Le
c'est très cryptique.
Est ultra minimaliste et cryptique. Alors, il est aussi cryptique qu'un pitch d'un jeu From Software, qu'un Souls, sauf qu'il est beaucoup plus minimaliste.
Oui, alors là, pas de description d'objets à aller lire, pas de...
Pas d'inventaire.
Très peu de narration environnementale.
Pas de PNJ.
Exactement. Ouais.
Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment la narration réduite à son strict minimum. Et ensuite, donc, notre personnage, il est appelé à parcourir un open world assez vaste.
Vide.
Totalement
aucun,
vide.
Voilà, aucun ouais. personnage. Ouais. Voilà, quelques oiseaux par-ci par-là.
Des lézards,
pas ouais.
des oiseaux, mais c'est tout. Et cet open world est composé de plaines, quelques montagnes, quelques reliefs, quelques forêts, quelques lacs,
ouais.
oasis de verdure, comme ça, ou même des mers asséchées. Et on va devoir successivement, et dans un ordre précis, chercher oui. les 16 colosses qu'on va devoir abattre. Et pour les trouver dans ce monde qui est assez étendu, et bien il suffit de presser une touche, de brandir notre épée sur laquelle va se refléter le soleil. Donc on ne peut pas le faire quand on est à l'ombre. Et là, un faisceau lumineux va nous indiquer une direction à suivre pour trouver le colosse suivant. Même si cette voix un peu bizarre nous avait donné un petit indice en nous disant voilà, le prochain colosse se trouve sous un mausolée, ce genre de choses. On se dit ok, on voit à peu près, on peut visualiser à peu près à quoi ça va ressembler, mais on ne sait pas où c'est. Et donc il s'agit de brandir notre épée pour que la direction nous soit indiquée par un élément diégétique. Il n'y a pas du tout d'interface avec de minimap, de boussole qui nous
on
dit
peut ouvrir une map, mais
qui sert pas à grand chose.
Voilà, elle sert pas à grand chose à part à repérer à peu près. Vu qu'on a la position des colosses qu'on a déjà vaincus, on peut se dire ah oui, je dois aller à peu près dans la direction de...
Un peu plus loin ouais. que le précédent. Et donc ça, c'est une des pattes déjà de Fumito Ueda, c'est d'avoir des jeux qui sont ultra minimalistes,
épurés, ouais.
que ce soit d'un point de vue interface et aussi de la narration.
Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur quelque chose, alors que moi, j'ai pas testé parce que j'ai fait les choses telles que le jeu me demandait de les faire, donc j'ai fait les colosses dans l'ordre. Il semblerait que tu sois pas forcément obligé de tous les faire dans l'ordre imposé, parce que si tu te balades sans tenir compte du halo lumineux de ton épée,
tu peux tomber sur
un colosse. Alors,
et il se réveille quand même, même si c'était pas celui que tu devais faire.
Alors justement, c'est là où je suis pas sûr. J'ai vu des propos contradictoires quand j'ai fait des petites recherches. Il y en a certains qui sont scriptés. En tout cas, le dernier, parce que tu as besoin d'activer quelque chose qui nécessite que tu aies battu tous les autres avant. Ouais.
Alors dites-le nous en commentaire si vous êtes un expert de Shadow of the Colossus, si vous avez réussi déjà à faire les colosses dans un autre ordre que celui qui est dicté par la narration. Ça nous intéresserait de savoir ça.
Et avant de passer peut-être à mes impressions, parce que je sais que c'est ça que tu attends, hein, on le rappelle, on ne se dit pas à l'avance avant d'enregistrer ce podcast ce qu'on a pensé des jeux, donc le suspense est palpable. Peut-être l'autre question traditionnelle, pourquoi est-ce que tu as tenu à soumettre ce jeu? Bon, la réponse est peut-être un peu facile, parce que Shadow of the Colossus est quand même tenu en estime par beaucoup de joueurs, par la presse de manière générale. Il est souvent considéré comme un chef-d'œuvre de son époque, mais je suis curieux d'entendre tes raisons, si elles sont différentes de ça.
Ben, moi, c'est un jeu que j'avais fait dans sa version remaster en 2011. Un pote m'avait offert le bundle Ico et Shadow of the Colossus, d'ailleurs un pote qui nous écoute régulièrement, donc on te salue Nathanaël, si tu nous écoutes. Et j'avais adoré déjà le faire à cette époque-là, et puis alors la version 2018 m'avait complètement transcendé, parce que je trouve qu'on atteint un niveau visuel qui arrive vraiment à la hauteur des ambitions de Fumito Ueda par rapport à ce qu'il voulait nous décrire visuellement. Mais moi, c'est un jeu que j'adore pour plein de raisons, pour son épure qu'on a déjà évoqué, pour aussi son importance actuelle, parce que c'est un des jeux les plus importants, je pense, si on veut comprendre des jeux contemporains comme les deux derniers Zelda, par exemple. À mon avis, c'est un jeu qui a un héritage assez important, qu'il soit cité ou pas par les développeurs. Il a redéfini une manière d'explorer un open world, et j'adore cette idée de la narration environnementale, de l'immersion par le rien, en fait, où tu te laisses aller au contemplatif. Enfin, c'est, je pense, un des jeux les plus contemplatifs qui m'ait été donné à faire.
Oui.
Et c'est une contemplation qui me touche beaucoup. Il y a une forme de romantisme dans le lien avec la nature. Il y a une approche poétique. Alors forcément, il s'agit de termes qu'on emploie énormément, qu'on entend beaucoup de fois quand on parle des jeux de Fumito Ueda, mais il n'empêche que, bah oui, ça a cet effet-là sur moi. Il y a une vraie puissance poétique, évocatrice, et un appel à la contemplation que je retrouve dans très très peu d'autres jeux. Et puis, un des autres points qui fait que c'est un jeu capital pour moi, c'est que c'est un des rares jeux, peut-être avec les jeux de Miyazaki, notamment Elden Ring, où je trouve qu'il arrive à atteindre un niveau, une ampleur mythique. C'est-à-dire qu'il s'inspire énormément d'éléments mythologiques sans du tout être un jeu à référence. Vous pouvez ne rien connaître d'aucune mythologie et ça vous parlera tout autant. Mais forcément, on pense au mythe d'Orphée quand on joue à Shadow of the Colossus, puisque Orphée devait aller retrouver Eurydice en enfer et puis de signer un pacte avec Hadès pour la faire remonter donc dans le monde des vivants, donc la faire revivre. Sauf que bah voilà, ça se termine mal. On pense aussi beaucoup à la version japonaise de Orphée qui s'appelle Izanagi. Donc il y a cette essence mythologique dans Shadow of the Colossus, ne serait-ce que par la figure des colosses aussi, qui est clairement une figure mythologique. Mais en plus
et des décors contre traverses, hein, qui peuvent ressembler à des ruines gréco-romaines.
Exactement, et on est dans un contexte qui évoque, en tout cas visuellement, l'antiquité gréco-romaine, c'est ça. Mais en plus d'avoir ces inspirations, je trouve que le jeu lui-même arrive à atteindre un niveau et une portée mythique, parce que c'est archétypal, on a un personnage archétypal, on est hors du temps, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe, on ne sait pas exactement où est-ce que ça se passe, donc c'est universel, ça parle à tout le monde. Et je faisais référence à Elden Ring, pas pour une nouvelle fois parler d'un jeu de From Software, mais parce que les histoires que raconte Miyazaki au travers de ces jeux, ce sont aussi des histoires qui ont cette portée universelle, cette portée mythique, où on a une absence totale de discours actuel, qu'il soit sociologique, politique ou autre, mais c'est simplement de la grande histoire avec bah voilà, ce que Campbell appelait le monomythe, c'est-à-dire des parcours de héros archétypaux qui sont fondateurs, qu'on retrouve dans tout les civilisations ancestrales et qui nous parlent au plus profond de nous-mêmes. Donc moi, c'est ça qui me touche beaucoup dans Shadow of the Colossus, c'est que c'est un jeu qui va toucher dans notre inconscient, dans notre imaginaire, des choses fondamentales, des choses viscérales, et c'est un jeu qui mise aussi sur ton imaginaire, parce que comme Elden Ring...
J'allais dire, ouais, avec une certaine place pour l'interprétation dans les deux cas, puisque tellement peu de choses sont dites
que c'est à toi de compléter.
Ça te laisse la marge, effectivement, c'est ça, de laisser ton imagination faire le reste.
Il y a plein d'angles morts, il y a plein de zones grises, et puis bah, si t'as un sens pour les histoires, si t'as le goût pour ce genre de choses, bah, tu vas peupler cet univers, tu vas projeter sur cet univers des choses qui te parlent. D'ailleurs, en interview, Fumito Ueda, quand on lui disait « Est-ce que le jeu parle de ça ?» parce que nous, on a l'impression que ça parle de ça, sa réponse était tout le temps la même. Il disait « Si vous y avez vu ça, bah, c'est que le jeu doit un peu peu près parlé de ça. Vous avez, oui, je peux pas vous dire le contraire. Si ça a provoqué ça chez vous, c'est que le jeu parle de ça. Alors, lui dit que le jeu, je crois qu'il a décrypté 2-3 éléments. Il disait que c'est un jeu qui parle de la cruauté, c'est un jeu qui parle aussi du fait d'être enfermé par son destin. Mais c'est des choses qui sont très vastes, qui sont très générales. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc, vraiment pour moi, c'est un jeu qui procure un sentiment de grandeur, d'étendue, de liberté, d'appel à l'aventure, à partir de rien. Et c'est la démonstration pour moi qu'un jeu vidéo peut, avec des moyens minimalistes, faire énormément de choses. Donc arrêtez de nous faire chier avec vos interfaces qui grouillent de merde là. Faites peu de choses, mais
monsieur,
faites-les bien.
Monsieur aurait-il joué à un jeu Ubisoft dernièrement?
Non mais c'est le cas de pratiquement tous les open world actuels. Il avait, alors après je te redonne la parole, mais Fumito Ueda, parce que j'ai lu pour préparer ce podcast le bouquin de Damien Mécheri qui était sorti aux éditions Sœurs d'édition, qui s'appelait L'œuvre de Fumito Ueda, une autre idée du jeu vidéo, qui est un excellent bouquin qui retrace la courte carrière actuellement de Ueda. Et dans le bouquin, Mécheri rappelle que Fumito Ueda a un concept, il a inventé en fait lui-même un concept pour créer ces jeux vidéo. C'est ce qu'il appelle le design par soustraction. C'est-à-dire qu'il va viser la simplicité, l'absence d'interface, une narration minimaliste, il va laisser respirer l'imaginaire du joueur, il va miser sur un aspect contemplatif quasiment muet, il y a très peu de dialogue. Donc tous les éléments dans le jeu doivent avoir du sens. Tout ce qui n'aurait pas de sens pour ce qu'il veut raconter, ça dégage. Donc il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de PNJ.
Y a une barre de vie dans Shadow of the Colossus.
D'endurance.
Ouais, mais de vie oui, aussi, oui, parce que si tu tombes,
qui apparaît
uniquement voilà, si elle n'est pas pleine en fait.
C'est ça, quand tu reçois un dégât, elle apparaît.
Et qui
n'est
pas très,
ce
très intrusive dans tous les cas, parce que généralement, soit tu ne te prends pas de dégâts, soit tu meurs. Mais
c'est ça. Donc ce design par soustraction, c'est l'idée de supprimer tout ce qui est un peu superflu et de garder uniquement ce qu'il va considérer comme étant parfait et essentiel. Donc il vire, il élime, il rabote au fil du développement, et il obtient quelque chose qui est primitif, qui est essentiel, au sens, c'est l'essence même du truc, donc c'est ultra concentré, et ça produit un chef-d'œuvre.
Eh ben, va passer après ça, dis donc. Bon, alors on peut rentrer
dans le
vif du sujet.
C'est ça.
Alors, Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui m'a provoqué des sentiments très forts, principalement un sentiment très fort. C'est celui de vouloir jeter ma manette à travers la pièce de frustration. Alors, je vais évidemment développer, mais je vais spoiler ma conclusion à l'avance, mais après, évidemment, je vais développer point par point, mais je réalise que c'est un jeu qui propose quelque chose d'assez unique, de particulier, et des moments assez fort, notamment dans le gigantisme de ses adversaires et de
ce jeu d'échelle,
des étendues qu'on traverse. Mais je suis le premier à tristesse à le dire, ça a été quasiment impossible pour moi d'apprécier ce jeu à cause du gameplay, à cause des contrôles qui sont archaïques, qui ne sont pas agréables. Je vais développer, hein, mais
bien sûr.
J'ai jamais réussi à passer outre la frustration que me provoquait le contrôle du personnage, le contrôle du cheval, certains aspects de la boucle de gameplay dans les combats.
Alors le cheval, c'était quelque chose de volontaire, c'est-à-dire qu'il a souhaité, au cours du développement, ils ont étudié énormément les mouvements des chevaux, ils sont partis en voyage pour étudier les mouvements des chevaux avec son équipe, et ils ont remarqué que les chevaux, ça n'obéissait pas toujours aux cavaliers.
Ah
et
oui, donc, ça c'est rien de le dire. Ouais, ça, ils ont bien retranscrit. Alors, ouais,
donc,
beau travail, monsieur Ueda, vraiment.
Le cheval qui s'appelle Agro, il a un côté difficile à manier parce que Ueda voulait vraiment transmettre aux joueurs l'idée que le cheval n'est pas le cavalier. Et toi, tu ne joues pas le cheval, tu joues le gars sur le cheval. Donc il y a parfois ce flottement, effectivement, du cheval qui n'obéit pas strictement à ce que tu voudrais faire. Mais ça peut procurer un sentiment un peu étrange, manette en main.
Ouais, ouais.
Mais le personnage, alors ça m'étonne un peu plus,
non, alors,
parce que je trouve que le personnage est tout à fait maniable.
Surtout le cheval, parce que finalement, dans la boucle de gameplay, donc on l'a dit, on voyage vers sa cible, chose qu'on fait la plupart du temps en cheval, à part quand on doit grimper des montagnes, traverser des canyons, des choses comme ça. Et après, effectivement, les combats se passent la plupart du temps à pied, même s'il y en a certains qu'on peut faire en partie à cheval. Mmh. Donc oui, effectivement, j'y reviendrai, mais c'est surtout les contrôles du cheval qui m'ont énervé.
Mais donc c'était volontaire.
C'est le même genre de stratégie de gameplay que les armes qui rouillent dans Far Cry 2, tu vois, et c'est pas une bonne idée pour autant. Mais bref. Alors, pour retracer un petit peu mon parcours du jeu, donc, comme tu l'as dit, on est poussé à faire les choses dans l'ordre. Donc, voilà, premier colosse, deuxième colosse, il y en a un total de 16, hein, je sais plus si on l'a dit.
Oui. Ils en voulaient 48 à la base, donc...
Je serais pas allé jusqu'à 48, alors là, tu peux être sûr de toi. Les premiers, ça se passait encore assez bien, parce que le trajet était à chaque fois finalement assez court, les colosses étaient assez faciles à battre. Je trouvais déjà le cheval un peu pénible à diriger, et puis le système d'escalade pas hyper convaincant, mais... Globalement, les premiers colosses, je me disais, bon, voilà, je vais attendre d'en voir plus. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Les premiers colosses, enfin, le premier colosse est en plus assez impressionnant. Il est assez reconnaissable. Et puis, c'est là où on est introduit à la boucle de gameplay. Enfin, le gimmick du jeu, c'est que une fois que tu as trouvé ta cible, ton colosse, va venir la question de comment est-ce que tu le butes. Mmh. Et pour la plupart des colosses, il va s'agir de grimper sur lui, mais on peut pas grimper partout sur le colosse parce qu'ils sont couverts d'une armure, alors qu'ils couvrent heureusement pas tout le corps.
Et des parties de fourrure.
Voilà, et on peut s'accrocher sur les parties de fourrure et sur les rebords des armures éventuellement. Et une fois qu'on est accroché sur le colosse, si on a l'épée équipée, on va trouver une sorte de point faible, comme une sorte de symbole, comme un tatouage qui brille.
Luminescent,
exactement. Sur lequel on va devoir planter son épée à plusieurs reprises pour faire descendre la barre de vie du colosse. Et sur certains colosses, une fois qu'on arrive à la moitié de la barre de vie, ce point faible va disparaître et puis on a un autre qui va apparaître quelque part sur le corps du colosse. Donc on va devoir ramper selon la position du colosse et ta position relative.
Colosse qui se débat d'ailleurs et qui se débarrasse de toi. Tu dois gérer ta barre d'endurance en restant accroché au colosse.
Exactement, oui. Et selon là où tu es accroché, si tu es accroché, disons, sur son dos ou sur sa tête quand il est debout, tu peux te permettre de ne pas t'accrocher. Mais si tu es forcément la tête en bas, dans ce cas-là, il faut gérer son endurance comme on peut. Donc voilà, ça c'était juste pour repréciser peut-être pour les gens qui ne voient pas comment ça se joue. Donc la boucle de gameplay, donc, comme je disais, les premiers, ça allait encore. La stratégie pour les battre n'était pas forcément toujours évidente. Mais au bout d'un moment, tu as la voix de la divinité qui te donne un petit indice.
En plus.
Et on y passait généralement pas trop de temps non plus. C'est à partir de... Alors, j'ai pas noté est-ce que c'était le quatrième, le cinquième, le sixième, mais d'un colosse dont je me souviens en particulier qui vole, qui est une sorte de grand oiseau qui est au-dessus d'un lac. Où là, la frustration a vraiment commencé à prendre le pas sur mon expérience et où j'ai vraiment ressenti les vrais problèmes des contrôles. Parce que notamment dans ce colosse, le mode d'escalade de ce colosse, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. On doit l'attirer avec l'arc et les flèches qui d'ailleurs ne servent pas à grand chose à part 2-3 interactions comme ça.
Ouais, souvent pour attirer les colosses.
Voilà. Et on attend que l'oiseau tente un piqué vers nous pour sauter et s'accrocher à une aile. Alors effectivement, il y a l'effet waouh la première fois, effectivement. Et après, il y a l'effet où tu tombes dans le lac parce que tu n'avais plus d'endurance ou quoi, et où tu dois nager pendant je ne sais pas combien de temps parce que ton personnage nage avec l'énergie d'un chihuahua asthmatique. Et donc, il faut nager jusqu'au premier petit îlot de terre, essayer de réattirer l'attention
du colosse. Mais honnêtement, tu le fais quoi, 3 fois maximum pour arriver au bout
qu'on est, laisse-moi finir. Se rendre compte qu'on est trop loin, donc on renage jusqu'à l'îlot suivant. Et puis oui, mais on le fait quelques fois.
Mais quand tu vas à la chasse, Thomas, tu crois que les animaux, ils viennent comme ça tout de suite vers toi?
Si ça devait encore ajouter à mes raisons de ne pas être chasseur. Hein. Non, mais en fait, justement, tu dis tu le fais quelques fois. Et c'est aussi ça le problème. Et, enfin, le problème qui est aussi le but du jeu, c'est que tu vas devoir trouver la façon de battre le colosse. C'est un jeu un petit peu puzzle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à des boss de Zelda, mais c'est encore quelque chose de différent parce que c'est pas vraiment l'exécution qui est difficile, c'est plutôt comment faire.
Et ouais, c'est pour ça que je dis que c'est des patterns d'approche à avoir en tête.
Tu vas prendre du temps, tu vas essayer de trouver comment ça marche. Mais le problème, c'est que après, t'es pas assuré d'y arriver du premier coup. Et chaque échec, que ce soit pour cet exemple-là ou d'autres, te demande de recommencer toute la technique d'approche que du coup tu connais. Et c'est juste une question d'attendre que le colosse soit bien placé, de sauter au bon moment. Et puis si tu rates, t'es bon pour 3 minutes d'attente le temps que le colosse fasse le tour. Il y a eu plusieurs fois où j'ai vraiment ressenti des choses comme ça. Il y a eu un autre exemple. Alors bon, je spoil un petit peu certains ennemis, mais c'est inévitable si vous nous écoutez. Mais un colosse dans le désert qu'il fallait attirer jusqu'à des geysers pour le faire chuter.
C'est le plus chiant.
La vitesse de déplacement, la lenteur de déplacement de ce colosse était horrible.
C'est le seul où effectivement je me suis dit ça c'est un peu chiant. Mais sinon, moi je trouve que le jeu arrive quand même à déployer cette mécanique d'aguet, c'est-à-dire que t'es quand même un chasseur qui doit patienter, qui doit guetter, qui doit observer, qui doit attendre le bon moment. Et alors à t'entendre, on pourrait se dire que c'est peut-être des heures et des heures sur un colosse, mais
non,
c'est une question de 5 minutes, 10 minutes maximum pour parvenir à escalader le colosse. C'est pas si long que ça.
Alors oui, mais alors donc déjà, donc pour moi il y a le problème des contrôles je vais en reparler après. Il y a d'autres exemples où les contrôles m'ont vraiment fait rager. Mais donc pour revenir sur le, on va dire le rythme du jeu. D'accord, par colosse, t'as peut-être 5-10 minutes par-ci par-là d'attente. Mais le problème, c'est que le reste du temps du jeu, bah, tu fais pas grand-chose non plus.
Bah, tu contemples.
Bah oui.
T'as pas besoin d'être sursollicité.
Non, alors je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi quand tu parles de l'extrême inverse et des jeux avec 10 000 quêtes annexes ridicules.
Tu te laisses porter par le souffle épique, c'est que ça ce jeu.
Ouais, mais quand c'est pas agréable manette en main, bah moi j'ai du mal à dépasser ça. Alors oui, le jeu graphiquement est plutôt bien réussi dans sa version remakée, les colosses sont assez jolis à voir.
Ils sont super parce qu'ils sont mi-organiques.
Pas mécanique non plus, mais voilà, ouais, effectivement. Ouais.
Donc, c'est des animaux de terre qui sont assez fascinants.
Au niveau du design, ouais, il y a vraiment aucun problème. Graphiquement, le jeu n'est pas irréprochable non plus. Hein. La distance d'affichage n'est pas incroyable, puis ça a tendance à ramer dans certains coins. Mais bon, ça limite, peu importe. Mais en fait, au-delà des contrôles, j'ai trouvé qu'il y avait une lourdeur dans les allers-retours à effectuer. Alors, effectivement, tu parles de poésie et de contemplation, mais les déplacements ne sont pas intéressants. Parce que les trois quarts du temps, tu les fais en cheval. Le cheval, il n'est pas très, très réactif. S'il y a la moindre brindille sur son chemin, t'es bon pour un demi-tour. Alors, bah, vraiment, moi, c'est... Et encore, je dis ça avec du recul. Parce que
il y a une caméra dynamique pendant les trajets.
Oui.
Il y a une caméra dynamique, cinématographique.
Qui une fois sur deux, te nique la direction de ton halo lumineux pour l'épée, ce qui fait que c'est quand même toujours un peu compliqué de savoir où on va. Non, alors, honnêtement, en plus... Les décors sont vides. Alors oui, tu peux effectivement laisser divaguer ton imagination, mais t'as pas grand-chose sous la main.
C'est des terres dévastées, ça s'appelle les terres interdites, où tu sens que si tu mets le pied là-dedans, bah, tu cours de grands risques et t'es dans un endroit où tu ne devrais pas forcément être. Il y a effectivement un côté désolé dans le jeu, que ce soit les ruines, que ce soit les environnements un peu déserts, mais je trouve que ça participe vraiment à cette portée...
Ça participe symbolique à l'ambiance, que tu as vraiment l'impression d'être effectivement tout seul et d'être dans une sorte de quête dont tu te mets à questionner le sens au bout d'un moment. Et ça, je suis d'accord. Mais tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec les jeux de From Software. Je trouve que c'est quand même une autre dimension. Parce que là, tu n'as pas grand-chose dans le décor, dans l'environnement, qui puisse justement te donner matière, je trouve, à réfléchir et à imaginer ce qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là. C'est juste des décors vides avec quelques ruines ici et là, mais qui se ressemblent à peu près toutes. Je trouve qu'il y a, ouais, il y a pas grand chose pour te donner l'envie d'en savoir plus.
Oui, c'est du vide symbolique, mais qui moi, me permet de projeter énormément de choses sur l'écran.
Et voilà, malheureusement, moi, ce qui m'a... tout ça, le fait que j'ai pas trouvé la boucle de gameplay hyper intéressante, même si, finalement, le gros du jeu, c'est-à-dire les combats, et encore, je dis le gros du jeu, mais pas au niveau du temps que tu passes, parce que tu passes, je dirais, à peu près en moyenne... peut-être autant de temps sur un colosse que ce qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à lui.
Ouais, à peu près. Par colosse, il faut compter une demi-heure de jeu.
Voilà, c'est ça. Mm. Mais disons un quart d'heure pour traverser les espaces vides sur le dos de ton canasson dégénéré, là. Et un quart d'heure pour essayer de trouver le point faible de la bestiole pour grimper, etc. Ce qui propose... ça, j'en conviens, des moments assez épiques selon les colosses.
Putain, mais les colosses, mais voilà, mais... tu citais le colosse aérien, sous l'eau aussi, le colosse marin.
Celui-là, ou... c'est un de mes préférés.
Tu dois t'accrocher à lui, il fait des plongées, donc là, ouais. T'es obligé de le lâcher parce qu'il va trop en profondeur et t'as pas assez de souffle sinon avec la musique.
Je pense que c'était un de mes préférés avec, paradoxalement, le premier volant parce qu'il y a vraiment l'effet waouh, mais après, en fait... tous les petits moments de grâce que je pouvais trouver dans le gigantisme, dans justement, comme tu dis, une certaine forme de contemplation, c'était systématiquement 2 minutes plus tard rembarré par j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire parce que mon personnage s'est pas accroché là où il fallait, parce que je parlais du système d'escalade que je trouve vraiment pas terrible, surtout en descente, descendre d'un...
Et se raccrocher.
D'un bout de falaise à un autre bout de falaise ou d'un bout de colosse à un autre bout de colosse, c'est difficilement faisable du premier coup sans se gourer. Mais voilà, il y a quand même eu quelques colosses qui me restent, qui m'ont marqué, notamment le dernier dont on ne va pas trop parler, mais qui est vraiment le sommet du gigantisme. Mais malheureusement, ça a provoqué chez moi un détachement émotionnel. J'ai pas réussi à m'investir comme tu, manifestement, t'as pu l'être et comme j'imagine la plupart des joueurs l'ont été.
C'est des jeux qui divisent.
Oui.
C'est des jeux qui divisent. T'es pas le seul à ressentir ça. Et Last Guardian va recevoir à peu près les mêmes critiques quelques années après parce que les mouvements du chat-oiseau vont être aussi un petit peu aléatoires, difficilement maniables. Donc, c'est des jeux qui font pas l'unanimité.
Oui. Et. Je suis bien conscient que c'est un problème en partie personnel parce que c'est une question aussi de ressenti, mais on a déjà eu cette conversation pour d'autres jeux, mais j'aime bien quand il y a des ambiances et des choses comme ça, mais j'arrive pas à me détacher du gameplay si j'apprécie pas.
Et c'est drôle parce que moi,
j'ai vraiment pas pu faire abstraction de tout ça, de toute cette lourdeur. Et c'est dommage, j'en suis sorti vraiment frustré, énervé par session. Je faisais une session d'un ou deux colosses, mais je ne pouvais pas faire beaucoup plus parce que vraiment, j'ai rarement eu des jeux qui ont provoqué en moi une telle crispation de j'arrive pas à faire ce que je veux à la manette et j'en ai marre.
T'as pas fait Last Guardian.
J'ai pas fait Last Guardian, j'ai pas fait ICO non plus. Mais, et tu vois, en fait, ça m'attriste un peu aussi parce que je suis conscient de la portée du jeu et que c'est un titre assez culte dans le cosmos vidéoludique. Mais vraiment, j'ai pas aimé. C'est aussi simple que ça. J'ai pas réussi à aimer et ça m'attriste un peu, vraiment. Il y a aussi autre chose. C'est pas vraiment une reproche.
Un reproche, pardon.
J'avais déjà entendu parler du jeu et puis j'avais 2-3 idées déjà sur son univers, etc. Mais je regrette quand même un petit peu ce côté un peu trop minimaliste où j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'informations sur les conséquences des actes de notre personnage, dans le sens où donc tu te mets
la fin de l'histoire,
mais disons pendant tout le jeu tu te mets à tuer des colosses qui a priori t'ont rien fait et qu'on te demande de tuer parce que...
Tu signes un pacte au début du jeu, tu sais que ça t'engage à devoir potentiellement payer un prix assez lourd.
Oui, mais justement, en fait, j'avais entendu du jeu à l'époque que c'est un jeu où tu te rends compte progressivement, enfin même assez rapidement, que t'es pas forcément le gentil de l'histoire. Mais bon, bah, y a pas grand-chose pour te...
Mais à nouveau, c'est symbolique et ça a une portée mythique. C'est-à-dire que c'est signalé et c'est signifié par des éléments bah, qui ne sont pas verbaux, qui ne sont pas textuels, mais c'est le fait que quand tu tues un colosse, il y a une forme de sang noir qui s'en dégage, qui se transforme ensuite en ombre, que ces ombres t'assiègent et te fassent t'écrouler et te réamènent au tout début du jeu. Le fait que plus tu tues de colosses, plus ces ombres qui gagnent des silhouettes humaines sont nombreuses et elles sont dans un nombre équivalent au nombre de colosses que tu as tués. Tu comprends quand même par des éléments narratifs mais environnementaux et visuels bah, que ce que tu es en train de faire potentiellement ça commence à peser dans la balance et que ça te fait basculer vers une tragédie inévitable. Et je trouve que le jeu, c'est aussi une de ses grandes forces pour moi, c'est un jeu tragique avec une fin tragique, même si elle n'est pas absolument noire non plus, mais il y a un destin que tu ne sous-estimes pas au début et que tu es forcé d'embrasser et que tu peux même regretter a posteriori. Et je trouve que le jeu t'y mène d'une manière assez habile et à nouveau, sans être explicatif, sans être ultra didactique, mais c'est des choses que tu vis, c'est des choses que tu ressens. Et je, là aussi, ça me touche beaucoup.
Alors, pour le coup, j'ai... Non, j'allais pas m'arrêter à... Non, pour le coup, j'ai trouvé la fin intéressante. J'aurais presque aimé qu'il y ait, encore une fois, un petit peu plus, mais voilà, je sais que... J'ai peut-être besoin qu'on m'en dise un petit peu plus.
Cette cinématique de fin pendant les génériques, extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Mmh. Quel jeu propose une portée comme ça?
Ouais, c'est un jeu unique et paradoxalement, bah, je vais m'en souvenir, mais malheureusement, en fait, quand je prends du recul et que je regarde tous les jeux auxquels j'ai dû jouer pour ce podcast, c'est un peu triste, mais je pense que c'est celui que j'aurais vraiment pas fini si j'avais pas eu le but d'en discuter là.
Tu l'aurais moins fini que Heavy Rain.
Ouais, j'aurais peut-être pas fini Heavy Rain non plus. Mais si, parce que Heavy Rain, c'est rien à voir. Mais
t'avais envie de connaître la fin de l'histoire.
Voilà, il y a une histoire, il y a un mystère. Je pense que j'aurais pu pousser, j'aurais pu vouloir pousser, même sans l'impératif du podcast, j'aurais pu vouloir savoir la fin. Je l'aurais peut-être regardé sur YouTube aussi, plutôt que d'appuyer Z pour qu'il se brosse les dents. Mais
faites-le taire.
Mais là, je pense que la frustration aurait pris le dessus sur mon envie d'en voir le bout. Et finalement, toute chose bien gardée, je suis pas mécontent d'avoir vu le bout parce que la fin vaut le coup et puis le dernier colosse vaut le coup. Mais vraiment, j'aurais du mal à recommander ce jeu à quelqu'un qui a mes goûts parce que, manette en main, j'ai trouvé ça... horrible.
Je crois qu'on a la conclusion pour Shadow of the Colossus. Si vous avez bon goût, procurez-le-vous, faites-vous votre avis, dites-nous si vous êtes Team Thomas ou Team Thomas, Team bon goût ou Team mauvais goût. Mais c'est un jeu, comme vous le voyez, qui ne laisse pas indifférent. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour Thomas, c'était une crispation de chaque instant. Je crois que nous pouvons convenir objectivement qu'il est passé à côté de Shadow of the Colossus.
Mais alors, pour vraiment conclure...
Enfoncez le clou, vas-y. Dernier coup de marteau.
Pour vraiment conclure, typiquement, je pense que c'est un jeu, où, en tout cas je l'ai vu comme ça, où il fallait y être à l'époque. Même avec le lifting graphique, j'ai l'impression que les contrôles ont trop mal vieilli pour que n'importe qui puisse...
Je vais te soumettre Tomb Raider, moi, pour le prochain. Tu vas avoir des contrôles qui vieillissent mal. Tu vas voir.
Ça n'enlève
rien. Bon, là, il y a une histoire, il y a un petit journal de quête. Mon papa, il m'a dit de faire ci, il m'a dit de faire ça.
Puis il y a des boobs. Enfin, tu vois, vraiment.
C'est ça, ouais. Ça, c'est plus terre à terre.
Bon, voilà, je crois qu'on peut effectivement conclure sur ces notes de bon goût sur Shadow of the Colossus. Donc, voilà. Non, mais à coup le pas, ça arrive.
Ouais. Non, mais alors, honnêtement, je ne pensais pas que tu serais... Alors déjà, je pensais pas que tu serais négatif, mais alors je pensais jamais que tu serais si négatif. Mais bon, voilà,
je suis le premier surpris, essayez pas plus, comme tu dis. Ouais. On va pouvoir passer au deuxième jeu de ce podcast qu'on n'a pas encore cité, je crois, depuis le début, même si bon, vous lisez le titre du podcast, hein,
vous avez vu la magnifique image composée par Thomas, on ne saura pas lequel.
Mais... on ne saura pas. Le deuxième jeu dont on va parler est un jeu de 2008, il s'agit de Mirror's Edge, et on en parle juste après ça. Voilà, Mirror's Edge est un jeu développé par le studio suédois DICE. DICE écrit en majuscule parce que figure-toi, j'ai appris aujourd'hui que c'est un acronyme, comme le slip, le podcast de Semper Ludo. DICE veut dire Digital Illusions Creative Entertainment. Voilà.
Ça ne veut pas dire gros D en majuscule.
Ça veut pas dire gros D en majuscule, exactement. Okay. Donc studio qu'on connaît surtout pour la série des Battlefield, puisqu'il en est le principal développeur. On les connaît aussi, enfin peut-être qu'on peut les connaître pour être les développeurs du moteur graphique Frostbite, que Mirror's Edge n'utilise pas d'ailleurs, puisque le moteur est sorti en fait en 2008, la même année que Mirror's Edge, mais apparemment tout juste pas pour ce jeu, donc Mirror's Edge tourne sur l'Unreal Engine 3. Donc développé par DICE, édité comme tous les jeux de DICE par Electronic Arts. Sorti le 11 novembre 2008 sur PS3 et Xbox 360 et quelques mois plus tard sur PC. C'est un jeu qui a eu des plutôt bonnes critiques à la sortie. Il a eu des ventes correctes, même si apparemment un petit peu en dessous de ce que pouvait attendre l'éditeur. Et il a eu droit à une suite quelques années plus tard qui s'appelle Mirror's Edge Catalyst, qui lui pour le coup a eu plutôt de mauvaises reviews pour apparemment des raisons de boucle de gameplay, de rythme qui n'étaient pas terribles. J'ai personnellement pas encore joué à cette suite.
Il devrait y avoir un troisième aussi, non? C'était pas censé être une trilogie?
C'est, oui, au début, mais en tout cas je crois qu'il n'y a plus de nouvelles depuis. Le DICE s'occupe surtout des Battlefield maintenant, le dernier en date étant sorti, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il s'agit d'un jeu assez particulier, puisque c'est un jeu à la première personne qu'on pourrait qualifier de first person runner ou de first person platformer. On va parcourir des niveaux, sans mauvais jeu de mots, des niveaux dans lesquels on va faire du parcours, donc on va courir, on va sauter de toit en toit, on va faire du wall jump, des choses comme ça.
Du Yamakasi.
Exactement, avec quelques rares combats, que ce soit à main nue ou avec des armes à feu, mais c'est vraiment pas le propos principal du jeu.
Ni la force.
Ni la force, non, ça c'est sûr. Je vais faire un petit peu le pitch et puis en dire un petit peu plus sur le jeu et puis après je te poserai la fameuse question. Donc c'est un jeu qui se passe dans un futur proche, alternatif, dans une ville où tout est contrôlé par une sorte de régime, et dans cette ville il y a des runners qui transportent illégalement des biens, des informations, tout ce genre de choses, et on contrôle une de ces runners qui s'appelle Faith. Qui est une jeune femme qui va devoir, au cours du jeu, élucider une histoire de meurtre pour laquelle sa sœur, qui est une policière, est portée coupable à tort. Et donc le jeu va nous emmener dans les environnements de cette ville pour tenter de glaner des informations et essayer de prouver l'innocence de sa sœur. Ah, c'est sûr qu'il y a moins de contemplation, mais enfin. La raison pour laquelle je t'ai soumis ce jeu, c'est parce que je trouve que c'est un jeu qui proposait, en tout cas pour l'époque, quelque chose de vraiment nouveau. Depuis, il y a eu quelques jeux un petit peu dans cette veine, donc de jeux où on doit faire des acrobaties à la première personne, notamment les Ghost Runner.
Ou les Titanfall aussi, un petit peu.
Oui, un petit peu, même si dans un genre du coup complètement différent, parce que beaucoup plus d'emphase sur le shooting. Il a une esthétique aussi très marquée, hein, puisque si vous avez déjà vu des images du jeu, ça vous sautera aux yeux tout de suite. Les décors sont majoritairement blancs, et la plupart des éléments importants du décor, notamment les endroits sur lesquels on va pouvoir sauter, s'accrocher, etc., sont en rouge vif. On peut désactiver, hein, d'ailleurs, mais ça rend le jeu presque trop monochrome et pas forcément évident à naviguer.
Et voilà, ça fait penser à Neon White aussi. Enfin, Neon White,
oui,
fait penser à Mirror's Edge récemment.
Plus récemment, oui. Personnellement, c'est un des jeux que j'avais pu tester à l'époque sur Xbox 360 et que j'avais presque terminé à l'époque, que j'ai terminé un petit peu plus tard. Et ça m'avait vraiment laissé une assez forte impression de par sa proposition qui est vraiment assez unique, ou en tout cas à l'époque qui était vraiment novatrice. Depuis, comme je l'ai dit, il y a eu des jeux un peu dans cette veine-là. Le jeu n'est pas parfait, je pense qu'on va y revenir, mais je considère que, alors peut-être pas à la hauteur d'un Shadow of the Colossus, mais je trouve que c'est un morceau important de l'histoire de cette génération, parce que c'était suffisamment singulier à une époque où on commençait à entrer dans la routine toujours actuelle des Assassin's Creed et des Call of Duty. Ça proposait vraiment quelque chose de nouveau, et bien malheureusement, on dirait qu'actuellement, le développeur est revenu à des choses justement plutôt
classico-classiques.
Ouais. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai soumis ce jeu pour le podcast. Maintenant, la question traditionnelle, pourquoi est-ce que tu n'y avais pas joué depuis 15-16 ans déjà ?
J'y avais joué, je l'avais sur Steam depuis longtemps. Je l'avais lancé il y a, je pense, une dizaine d'années. Et j'avais dû faire un ou deux niveaux. Et puis, je m'étais dit, je crois que je vois ce que c'est. C'est cool, ok, mais j'avais pas envie d'aller
plus
loin. Ouais. Mm-hmm. Donc, je connaissais bien sûr le jeu, je l'avais testé, mais j'avais l'impression assez rapidement d'avoir saisi le truc sans ressentir le besoin de terminer le jeu.
D'en voir le bout.
Qui en plus de ça
est relativement court. C'est pas un jeu très long, hein, je pense que quoi. 6-8 heures,
c'est
on voit le bout.
Tout à fait. Et finalement, maintenant que je l'ai terminé, puisque tu me l'as soumis, je reste sur cette impression. C'est-à-dire que.
On peut y jouer deux heures et puis c'est ça.
Oui, ouais. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est une proposition. C'est
un jeu concept.
C'est un jeu concept qui essaye de faire quelque chose de nouveau, comme tu l'as dit, du FPS platformer, de la plateforme 3D, en misant à mort sur le flow. Ouais. Donc le but.
Sur la navigation dans les environnements et le fait que tu dois pouvoir faire les choses de façon ininterrompue pour que
ça
soit agréable à faire.
Ouais, il faut viser un maximum de fluidité et pour ce faire, tu as quelques techniques. Par exemple, d'abord, avant de sauter sur un grillage, essayer de d'abord sauter sur une petite caisse un peu plus basse qui va te donner
pour
de l'élan.
Appui,
c'est ça. Tu vas pouvoir aussi, en pressant Shift ou je ne sais quel bouton sur ta manette, mais moi, je l'ai fait souris-clavier, tu peux, au cours d'un saut, rehausser les jambes pour... si tu sens que tu ne vas pas facilement passer par-dessus une barrière, tu peux lever les jambes au moment du saut. Et puis surtout, au moment où tu atterris, pour autant que la chute ne soit pas trop élevée et donc mortelle, tu vas pouvoir, plutôt que te blesser et te rétamer au sol, tu presses espace et puis là, ton personnage fait
une roulade,
qui amortit la chute et qui te redonne un peu d'élan pour poursuivre ta course. Et tout ça en FPS. Et donc, tu avais à l'époque et encore aujourd'hui ce côté assez, pour certains, gerbatif.
Oui.
Et pour d'autres, immersif et innovant, cette immersion justement où tu fais la roulade en FPS.
Exactement.
Donc ça donne un peu le tournis, t'as cette impression de faire le mouvement avec le personnage.
C'est pour cette raison, je crois, qu'ils avaient introduit le fait de quand même avoir un petit point, un petit curseur au centre de l'écran pour éviter justement d'avoir le tournis et d'avoir la nausée en jouant à ça.
Ouais, tout à fait. Alors moi j'apprécie la jouabilité, en tout cas du parcours, et j'aime les jeux de plateforme en général, donc c'est toujours intéressant pour moi, pour autant que ce soit réussi et maîtrisé dans ses mécaniques, de faire un jeu de plateforme. Et là, j'apprécie ces moments où vraiment tu sens que t'as un rythme, t'as un flow comme ça, et tu arrives à sauter, tu peux marcher sur les murs aussi, tu peux t'accrocher à des barres qui te permettent de te balancer pour t'accrocher ailleurs. Donc j'aime quand le jeu est rapide.
C'est un jeu qui marche extrêmement bien quand tout se passe bien.
C'est ça. Oui, quand il n'y a pas d'accroche. Maintenant, je trouve que c'est rare de pouvoir avoir une véritable séquence longue de flux continu. Souvent, le flux est vite interrompu. Et j'aurais aimé que le jeu mise un peu plus sur des tunnels qui, quitte à devoir procéder par une mécanique de die and retry, quitte à te faire recommencer parfois parce que tu avais peut-être loupé le bon embranchement ou le bon jump au bon moment, pour finalement finir le parcours en disant « Ah, c'était
t'as
comme ça qu'il fallait faire. »
Toute la séquence d'une traite.
C'est ça que je regrette un peu au niveau de l'exploration. L'autre chose que je regrette d'un point de vue mécanique, c'est que je trouve que le jeu se renouvelle pas du tout assez. C'est-à-dire que tu as pratiquement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que mon impression après deux heures et une dizaine d'années reste un peu la même aujourd'hui après avoir terminé le jeu, c'est que j'avais l'impression d'avoir tout vu après un ou deux niveaux. Tu découvres pas, toi on parlait de Portal dans un épisode précédent.
T'as deux, trois situations quand même où t'as des phases en intérieur qui changent un petit peu ton approche du level design.
C'est ça, il y a notamment
une
niveau...
séquence de fuite dans une tour où tu dois descendre les escaliers un petit peu 4 à 4 pour t'enfuir.
Et après il y a des conduites d'aération, ça c'est l'enfer. Mais
pas le meilleur niveau.
Un niveau avec un grand chantier où tu dois passer par des échafaudages, celui-là est cool parce que t'as une vraie notion de verticalité tout à coup. Mais par rapport à un Portal 2 dont on on parlait dans un épisode précédent et contre lequel j'avais quelques griefs, bah, je trouve au moins que Portal 2 et Portal 1 aussi, c'est un jeu qui est exemplaire dans sa manière de renouveler la mécanique du jeu en instaurant à chaque niveau un nouveau gimmick. Et là, je trouve que Mirror's Edge est un peu flemmard parce que des gimmicks, bah, il en apparaît très très peu au fil du jeu. Et ça, c'est ce que je regrette vraiment.
Je pense que, pour rebondir là-dessus, je pense que comme, si on remet dans le contexte de l'époque aussi, c'était déjà une proposition tellement nouvelle que je pense que peut-être qu'ils ont, alors je sais pas, peut-être que je trouve des excuses au jeu, mais qu'ils ont peut-être fait en sorte que le jeu reste assez simple et de pas mettre trop de,
alors,
de
c'est
petits
possible.
Gimmicks et que la palette de mouvement reste abordable aussi parce que, alors, je sais pas comment toi t'as vécu la difficulté du jeu, mais c'est un jeu qui est pas extrêmement difficile, mais qui a quand même une petite courbe d'apprentissage au début. Tu fais pas tout ce que tu veux du premier coup au début, et c'est ça aussi qui donne un petit côté d'Alien Retry sur où t'as tendance à des fois juste refaire un saut plusieurs fois pour être sûr de bien gérer l'angle, le timing, etc. Moi, j'ai trouvé que justement passer la première heure qui peut être un petit peu frustrante parce que tu as l'impression que tu vas jamais vraiment bien réussir à vouloir faire ce que tu veux, mais en fait, quand finalement tu prends le pli, et une fois que tu t'es mis à bien repérer les indices visuels que te laisse le jeu pour savoir où tu dois aller, parce que des fois il peut y avoir beaucoup de choses à l'écran parce que c'est des décors assez industriels finalement. Enfin, t'as un peu des tuyaux partout, comme tu es sur les toits, t'as une conduite d'aération ici, une grue par là. Donc des fois, ça peut être un petit peu déboussolant de savoir où est-ce qu'on va. Mais justement, l'astuce visuelle que le jeu propose, donc cette coloration rouge sur du blanc. Ah, t'as pas aimé,
mais je trouve ça dommage.
Alors
parce
bon,
que
c'est presque aseptisé.
Il y a cette patte visuelle assez intéressante, très blanche, dans un univers urbain qui rappelle à la fois New York et Hong Kong, parce que t'as une baie, t'as un contexte un peu asiatisant aussi, ne serait-ce que par les traits du personnage de Face. J'aime bien ça. J'aime bien cette atmosphère visuelle, en cel shading un peu des environnements. Mais tout à coup, bah, te souligner un élément avec un rouge vif pour te dire c'est par là que tu dois passer, je trouve qu'il y a un côté brise immersion à ces éléments soulignés comme ça.
Ouais, mais alors je sais pas si t'as essayé de le désactiver.
Oui,
c'est très peu faisable.
Ah oui, bah justement. Et c'est là que tu te dis que peut-être alors, que le level design n'est pas si bon que ça.
Alors, il a été prévu avec ça en tête, ça de toute façon. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont proposé l'option de ne pas le mettre, parce qu'à moins de connaître le jeu déjà et de juste vouloir l'enlever pour éviter que ça soit intrusif.
Disons que dans un jeu de plateforme, tu devrais tout faire pour que le level design soit organique et parle de lui-même, en évitant par exemple les marques jaunes pour te montrer par où tu dois passer. Ben là, c'est même plus des marques rouges, c'est des marques rouges fluo, c'est des éléments qui te sautent à la gueule par ce rouge fluo. Ça, je trouve véritablement dommage. Et par rapport à ce que tu disais sur la simplicité qui était peut-être là pour ne pas trop perturber les joueurs.
Trop d'options, et laisser aux joueurs le temps de s'acclimater à cette
Je suis d'accord avec toi.
Gameplay.
Sauf qu'à ce moment-là, il faut que l'histoire soit intéressante.
Alors ça, pour
et c'est
le
pas
coup,
le cas.
C'est pas non.
C'est vraiment une histoire générique. C'est pour ça que je faisais semblant de ronfler avant.
C'est un jeu.
C'est
pour
plan à mort, quoi.
Honnêtement, l'histoire. Bon bah, j'ai relu un petit peu le pitch pour préparer le podcast et j'en avais pas. Bon, je me souvenais de la sœur et puis du fait qu'on essaie plus ou moins de déjouer un complot et d'élucider le meurtre d'un politicien quelconque. Mais non, c'est pas le point fort.
La boucle de gameplay qui est très répétitive est aussi assez lassante. C'est-à-dire qu'au début, t'es dans le nouvel environnement et t'as ton contact qui te dit à l'oreillette, voilà, il faut à peu près que tu fasses ça et que tu fasses ça. Tu commences et puis ça ne manque jamais. Après 2-3 minutes, on dit, oh, attention, la police arrive, il faut que tu te dépêches. Et là, t'as quelques policiers plus ou moins armés, plus ou moins...
Et ou de simili-combat.
Et alors là, franchement, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, quand tu me dis que les gars de DICE font les Battlefield, bah, j'ai peine à y croire, parce que les Battlefield sont quand même des jeux de tir qui misent tout sur les sensations de tir, et là, alors, zéro sensation une fois que tu prends une arme en main et puis que tu essayes de te débarrasser de tes ennemis de manière un peu musclée. Donc là, c'est aussi une part de frustration. Moi, j'ai fini par mettre le jeu en mode facile, parce que des fois, bah, tu te reprends trop de balles, tu meurs, tu recommences, bah, va chier, c'est tellement inintéressant que ça, le mode facile ne change pas la difficulté du parcours, c'est-à-dire le réel intérêt
évidemment,
du jeu,
ouais, ouais.
Mais ça t'épargne quelques balles létales qui te font tout recommencer pour à peu près aucun intérêt.
Ouais, oui, alors ça, tu vois, moi, j'ai aucun mal à accepter les défauts qu'on puisse trouver au jeu que je te soumets, sauf quand c'est Portal 2. Mais je disais tout à l'heure que le jeu n'était pas parfait, et c'est typiquement à ça que je pensais, et je pense que quiconque a joué à Mirror's Edge, bah, je pense, sera d'accord pour dire que le combat, c'est. Voilà, c'est, le jeu brille absolument pas dans ce rayon-là. Je pense, alors là, c'est vraiment pas pour trouver une excuse au jeu, mais je pense que c'est aussi une manière de te dire que que t'es pas censé
combattre. Oui, tout à fait.
Alors,
d'ailleurs, ils te le disent.
Ils te le disent, et bon, en même temps, je trouve ça paradoxal, parce que, en effet, dans la plupart des situations, t'as meilleur temps d'essayer de fuir ou juste de bousculer les ennemis hors de ton chemin pour pouvoir t'enfuir. Il y a tout de même des séquences qui, finalement, te demandent de peut-être d'éliminer un ou deux ennemis pour avoir le champ libre. Le jeu essaie d'avoir un équilibre assez bizarre entre sa traversée des niveaux et puis les dangers qu'il met sur ta route. Moi, oui, j'aurais préféré encore plus de parcours et de navigation intéressante plutôt que effectivement une redite de t'as des gars qui te courent après, donc il faut que tu agisses dans la précipitation. Même si c'est aussi ces moments-là qui sont intéressants dans le jeu, parce que quand tu dois prendre des décisions rapidement, bah c'est là où tes réflexes de joueur deviennent importants. Tu te mets à courir dans une direction, t'es pas sûr si tu vas dans la bonne, tu dois bien repérer tous les indices visuels. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où, si t'as suivi la courbe d'apprentissage du jeu et que tu maîtrises la palette de mouvement de ton personnage, c'est vraiment dans ces moments-là où tu peux avoir des petits instants de grâce où il y a tout qui, comme tu dis, qui a un flow ininterrompu, où tu glisses sous cette barrière, tu escalades, tu sautes sur cette espèce de trampoline, tu esquives un ennemi par la gauche. Ouais.
D'ailleurs, les glissades sont un élément qui va être repris dans beaucoup de FPS par la suite. Oui. Dans énormément de FPS actuellement, Apex et autres, plutôt que de presser CTRL pour te baisser, quand tu presses CTRL, tu glisses exactement comme oui. Face dans Mirror's Edge. Donc, il a quand même influencé les FPS dans cette volonté de la fluidité continue. Maintenant, je pense que peut-être qu'il faudrait essayer le jeu dans son mode Time Attack. Parce que le jeu, je ne sais pas si c'est une fois que tu débloques la fin du jeu, enfin une fois que tu es arrivé à la fin ou pas, que tu débloques ce mode, mais il propose un mode contre la montre, en fait, où le but va être d'essayer de battre tes temps sur certains parcours. Et alors là, j'y verrais un intérêt peut-être supérieur. Peut-être que le jeu aurait dû être ce jeu de bagnole là, d'Ubisoft, comment ça s'appelle
The Crew
Non, un bon. Non, c'est même pas Ubisoft. Merde, un jeu de bagnole, des mini-circuits avec des loopings.
Ah, Trackmania.
Voilà, Trackmania. Peut-être que Mirror's Edge pourrait être un Trackmania du parcours qu'il m'intéresserait plus, tu vois.
Bah, ce qu'est apparemment, j'ai pas joué, mais ce qu'est Neon White.
Bah voilà,
il
exactement.
Hein. Ouais, Neon White, avec des mécaniques supplémentaires.
Avec d'autres mécaniques, mais c'est un peu l'idée. C'est des stages très très courts où tu dois essayer d'être le plus rapide, le plus performant possible. Et alors là, ça m'intéresse déjà un peu plus parce que l'intérêt du jeu, il repose essentiellement ici.
Ouais. Moi, je trouve vraiment que le jeu vaut le coup rien que pour justement les moments où tout se passe bien et où t'as le côté, comme tu disais, immersif. Hein, les jeux de ce genre-là à la première personne sont assez rares. Les jeux où tu vas vite, généralement, dans les jeux à la première personne, c'est soit ce qu'on appelle des walking simulators ou des FPS. C'est rarement des jeux où tu dois parcourir des environnements très très vite, puisque ça, généralement, les développeurs préfèrent utiliser une solution où tu as une meilleure visibilité de ton personnage et comme ça tu peux mieux gérer les sauts, la profondeur, etc. Et donc je trouve que ça ajoute comme une nouvelle sorte de contrainte finalement. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça aurait été compliqué peut-être de faire plus complexe au niveau des sauts, parce que et de se passer de la navigation avec tous les décors en rouge, parce que à quel moment tu te dis, mais ce saut-là, sans être visuel, est-ce que t'arriverais à dire, est-ce que ce saut-là, il est faisable?
Mais en fait,
chemin.
Si, tu peux imaginer déjà beaucoup plus de chemins possibles, hein, des mondes beaucoup plus bac à sable avec des voies multiples que tu pourrais emprunter pour arriver à destination.
Et
puis surtout, je pense que...
Il me semble justement que c'est un petit peu le parti pris de la suite.
Ok. Parce que là, parfois, tu as quelques alternatives, mais c'est rare. Et puis surtout, je pense qu'il faut miser sur l'habitude et l'intégration des distances par le joueur. Au bout d'un moment, tu sauras jauger la distance. Et c'est ça qui devient intéressant. Et là, tu t'immerges véritablement dans l'impression du personnage.
Ouais. Donc voilà, moi j'avais trouvé vraiment ce jeu intéressant, bien qu'imparfait. Ouais, c'est une proposition. Ouais. Mais j'aime bien en fait les jeux concept un petit peu comme ça.
Shadow of the Colossus, t'as déjà fait ?
Ouais, je connais pas. Non, mais parce que effectivement, bon, c'est un jeu qui est pas très très long, et oui, je pense que finalement faire le dernier niveau ou pas, ça change probablement pas l'appréciation que tu peux avoir du jeu. Mais c'est des jeux, enfin j'aime bien les jeux concept un petit peu comme ça.
Ben, j'ai parfois pensé à Killer 7, visuellement.
Ouais, à cause du cel shading et puis de l'aspect très couleur flashy.
Ouais, exactement. Ouais. Il y a une forme de ligne rouge de continuité dans ce que tu me soumets.
Et mais pourtant, Killer 7, comme Mirror's Edge, c'est finalement des jeux qui sont pas si représentatifs que ça de ce que je peux aimer généralement.
Non, mais j'étais surpris que tu me proposes Mirror's Edge, tu vois.
Pour justement le côté assez unique, parce que c'est quand tu fais le tour, il n'y a pas tant de jeux qui y ressemblent. J'ai jamais joué au Ghost Runner, apparemment c'est très bien.
J'ai acheté les deux après avoir fait Mirror's
Évidemment,
Edge. Je me suis dit, je vais quand même voir quel est l'héritage de Mirror's Edge. Et il faut peut-être aussi dire que c'est un jeu donc sorti en 2007.
2008.
Ah oui, pardon, 2008, excuse-moi, annoncé en 2007, qui est vraiment le témoin d'une époque où Electronic Arts proposait des jeux un peu plus intéressant que ce qu'ils font aujourd'hui. On parlait avant de Sony avec Fumito Ueda qui avait le courage de développer des trucs un peu spéciaux.
C'est vrai que c'est peut-être ça finalement le vrai point commun entre les deux jeux.
C'est ça.
C'est des jeux d'une époque.
Quand les grands studios osaient éditer des trucs un peu.
Et qu'on n'est pas sûr de voir de nouveau, en tout cas pas dans le contexte actuel.
C'est ça. Ouais.
Parce que même, alors je parle sous couvert de ce que j'ai pu lire dans la presse ces dernières décennies, mais même le reste du catalogue de DICE, les Battlefield, il semblerait que le consensus soit que c'était mieux avant. Enfin,
le dernier s'est fait complètement dégommer.
L'époque de Mirror's Edge, c'était les Battlefield Bad Company qui ont une très bonne réputation, effectivement.
Mais tu vois, c'est une époque...
Contrairement aux Battlefield actuels, malheureusement.
Des Dragon Age, c'est Electronic Arts, t'en vois plus beaucoup. Je pense que le dernier truc un peu couillu qu'a fait Electronic Arts, c'était Titanfall, qui a pas assez bien marché.
Qui a un statut culte pour une petite base de joueurs
que j'ai bien aimé, qui a aussi justement, comme je le disais avant, cette espèce de flow.
Ouais.
Mais maintenant, EA Interactive, ça nous propose des jeux de sport et des jeux de merde, quoi.
Ouais. Et des fois des jeux de sport de merde.
Et souvent des jeux de sport de merde. Bon, voilà. C'était un podcast consacré
Ode à une époque perdue.
Ça révolue. Et on va donc maintenant, très brièvement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, vous parler des jeux qu'on fait spontanément. C'est donc venu l'heure du « ça joue ou bien ». Alors Thomas, à quel jeu est-ce que tu joues sans contrainte actuellement ?
Alors depuis la dernière fois, puisque ça fait un petit moment, j'ai joué à pas mal de choses, figure-toi, puisque Shadow of the Colossus n'était pas si long, il était énervant mais pas si long. Ce qui fait que depuis la dernière fois, alors je vais balancer un petit peu en vrac, parce que j'ai été occupé. J'ai fini complètement Is Origin, dont j'avais parlé, je crois, la dernière fois, puisque je l'avais mentionné, c'est un jeu qu'on est supposé faire trois fois avec trois personnages différents qui donnent un angle un petit peu différent. C'était super, super nerveux, de l'action non-stop, les combats de boss. Alors, on refait les mêmes, mais avec un personnage différent, donc c'est pas trop grave, on a un angle différent. Vraiment, je suis devenu accro à cette série. J'ai commencé Issuite. Et ouais, vraiment du tout bon. Bravo Falcom. J'ai rejoué, c'était pendant Noël, à mon jeu de Noël nostalgique. J'ai refait Pokémon version bleue. Voilà, mais ça c'est un truc à moi. Hein,
c'est ton que... maman, j'ai raté l'avion vidéo.
Ah bah ouais, non, bah c'est le doudou de voilà, quand il fait froid, qu'il fait nuit à 17h. Voilà, on sort la Game Boy et on joue à Pokémon version bleue. C'est comme ça.
Tu y as joué sur ton...
J'y ai joué sur l'Analog Pocket, ouais. Qui est une façon tout à fait délicieuse de rejouer à des jeux Game Boy Color, enfin Game Boy ou Game Boy Color ou Advance. J'ai platiné Dark Souls, figure-toi, voilà, parce que je sais pas. Parce que pourquoi pas, finalement. Ouais. Et c'était moins... Enfin, pénible, le jeu est loin d'être pénible, mais je m'attendais à ce que ce soit...
plus éprouvant.
Plus éprouvant de faire le trophée platine, parce qu'il y a des armes uniques à obtenir, et finalement il n'y a pas besoin de farmer tant que ça. C'était une chouette façon de refaire le jeu que j'avais pas fait depuis un petit moment maintenant.
Et puis de sortir le Steam Deck.
Oui, parce que effectivement j'ai pu inaugurer mon Steam Deck OLED, hein, figure-toi, pour platiner Dark Souls Remastered. Et surtout, je vais peut-être juste terminer là-dessus, j'ai joué et j'ai écrit le test pour Semper Ludo de Another Code Recollection, qui est la compilation des deux jeux Another Code qui étaient sortis sur DS et Wii à l'époque, donc des jeux style point and click, dont j'avais un souvenir assez nostalgique, en tout cas du premier sur DS auquel j'avais joué mais pas terminé à l'époque. Et je les ai fait avec plaisir, la compilation est vraiment jolie. C'est quand même des jeux un peu mous du genou, hein. C'est pas trépidant, l'histoire est sympa à suivre, mais il n'y a pas des rebondissements qui te retournent le cerveau non plus, mais c'était des jeux assez agréables à faire, j'ai bien aimé, et puis voilà, ça m'a permis de faire mes armes sur l'écriture de test pour Semper Ludo.
Donc vous pouvez retrouver le test de Thomas sur Semper Ludo.
C'est ça, si vous en avez pas marre de mes hot takes sur les jeux comme Shadow of the Colossus, bah vous pouvez maintenant aussi lire mes hot takes sur d'autres jeux. Voilà, et puis j'ai commencé Yakuza Kiwami 2. Voilà. J'ai joué à plein de trucs. En fait, plein de
trucs. C'est vrai que ça fait un moment qu'on a enregistré le dernier épisode.
Ouais, et voilà, bah, Yakuza Kiwami 2, ambiance toujours au top. Bon, la partie beat'em all, c'est pas forcément, enfin beat'em all, ouais. C'est pas ma partie c'est pas ma partie préférée. J'y joue surtout pour l'histoire, l'ambiance, les catanex débiles,
les mini-jeux,
ouais. Mais voilà, comme malheureusement.
Tu les fais tous dans l'ordre, là, les.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, ouais. Comme je suis condamné par
ton destin tragique.
Mon destin tragique de vouloir faire les jeux dans l'ordre, j'ai très hâte d'arriver au 7. Et il semblerait qu'entre le 2 et le 6, ils ne soient pas tous excellents. Donc je vais peut-être faire une exception
faire
à cette règle, je ne sais pas. Ouais. Et toi, est-ce que tu as été autant prolifique que moi ou...
Oui, alors j'ai joué à pas mal de trucs. Déjà, j'ai bien avancé dans Baldur's Gate 3. Je fais le jeu avec trois potes, dont certains nous écoutent aussi, donc on les salue.
Bah oui, salut.
On joue à 4. On est au milieu de l'acte 2 environ, et je trouve le jeu complètement
fou. Sur
3
Sur 3 actes.
Ouais, tout à fait. Enfin, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Oui. On essaye de pas trop se faire spoiler. Je joue un gnome magicien. On est une joyeuse équipe avec une barde, avec un clerc et avec un rôdeur, et donc un gnome magicien. Donc je trouve le jeu assez taré. J'ai rarement eu autant les mêmes impressions que lorsque je suis autour d'une table pour faire du jeu de rôle papier. Donc c'est écrit avec une telle richesse et ça t'offre une telle liberté que tu retrouves la possibilité d'avoir des délires complètement libres, comme tu peux en avoir autour d'une table quand tu laisses libre cours à ton imagination. Donc ouais, c'est quand même un sacré morceau que l'Ariane nous a livré avec Baldur's Gate 3. Je pense que ça sera difficile. Enfin, c'est vraiment, ça va être un jalon du jeu de rôle du jeu de rôle en jeu vidéo.
Donc, et est-ce que ça provoque pas trop de temps mort d'y jouer à plusieurs pour les phases de dialogue?
Alors les dialogues,
décider qui
les dialogues, ça va parce qu'on est tous impliqués dans les dialogues et puis on peut montrer ce qu'on nous on répondrait. C'est celui qui dirige le dialogue qui finit par trancher. Mais donc les dialogues, ça reste assez immersif. Après, c'est clair que on a dû s'organiser parce qu'on avait tendance d'abord à s'éparpiller un peu. Il y en a un qui allait là à gauche, l'autre qui allait à droite, l'autre qui allait en bas, etc. Donc finalement, maintenant, on a décidé pour chaque session, on joue chaque semaine, on suit l'un des quatre. Et même si nous, on aurait plutôt préféré aller regarder ce qui se cache à gauche ou à droite, ben, on est obligé de suivre l'autre. Donc, mais oui, il y a beaucoup de temps mort, beaucoup plus que, tu joues, que si tu y joues seul. Mais là, pour te dire, je crois que j'avais joué une quinzaine d'heures seul avant de commencer cette session avec eux. Donc là, j'ai plus joué seul depuis. Et je suis à 122 heures de jeu. Et on est au même environ
à peu près la moitié du jeu
quoi. Ouais. Donc ça te donne une idée du temps, une centaine d'heures pour faire la moitié du jeu quand tu joues à 4, pour autant que tu essayes un peu de tout faire parce qu'on explore quand même énormément. Donc voilà, Baldur's Gate 3, c'est absolument magistral. Sinon, en lien avec deux liens avec des épisodes précédents, j'ai commencé Final Fantasy VII.
Mais qu'entends-je ? Ouais,
alors, j'ai pas fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que bon, les Final Fantasy, de toute façon, d'un point de vue narratif, ne sont pas liés les uns avec les autres. Vrai. Mais c'est clair que, je sais que le 2 est particulièrement pénible.
Oui, il divise.
Ouais. donc, je me suis dit, peut-être que je vais pas directement enchaîné avec le 2, et quitte à faire une exception à ma règle, autant aller avec le 7, parce que j'ai quand même envie de faire le remake Rebirth, c'est ça. Ouais. Donc je suis à peu près à la moitié, je crois, de Final Fantasy 7, qui pique visuellement.
Ah bah ça, mais... j'allais dire, moi, dans ma liste de jeux qui n'ont pas très bien vieilli,
ouais.
Tu vois.
Ah ouais, ça c'est clair. Après, narrativement, c'est cool. Ouais. Et puis musicalement, c'est magistral. Et puis l'avantage des versions actuelles sur console ou autre, c'est que tu peux avancer
les
temps.
Les cheat codes, ouais. Le foie, l'expérience foie, je sais.
Alors ça, j'avance le temps surtout. Tu peux interrompre les rencontres aléatoires. Tu as un god mode où t'es invincible.
La limite break max. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, je fais enfin Final Fantasy VII. Et je suis content de le faire.
Est-ce que tu t'avais été spoilé ou jamais?
Non.
Ça, c'est bien. Ouais. Parce que c'est comme...
Je savais qu'il y avait Sephiroth, qu'il y avait Cloud, mais le destin des personnages, non.
D'accord. Ouais, parce que bon, c'est un jeu où il se passe un événement que maintenant quasiment tout le monde connaît. Okay. Et je trouve ça bien...
Tu suis vierge.
À l'image de la... Comment dire, du twist de gameplay de The Messenger d'un épisode précédent, que tu y ailles vraiment sans rien connaître, tu as été préservé de tout.
Et là, je suis sorti du parc d'attractions, là. Le fameux.
Le Gold Saucer.
Exactement, quel nom incroyable. Donc, je viens de sortir du Gold Saucer. Et puis, parallèlement à tout ça, je fais aussi un autre jeu en lien avec un précédent épisode, puisque je fais Sea of Stars, développé par Sabotage, donc le studio à qui on doit The Messenger, qui se déroule, figure-toi, dans le même univers que The Messenger. Il y a des liens entre les deux. Alors, c'est vraiment un hommage au JRPG à l'ancienne, à la Chrono Trigger, c'est délicieux. C'est aussi l'occasion pour moi d'y jouer sur mon Rogalai, parce qu'on est les deux des bons Yankees. Et j'y joue quasiment que sur Rogalai, et c'est un délice. Alors, il y a une mécanique qui reprend beaucoup de Mario et Luigi, les RPG d'attaque avec du timing.
Les combats. Pour te garder...
captif,
engagé pendant
c'est ça.
Le combat.
Je m'attendais à un peu plus de renouvellement des coups. Finalement, ça progresse peu. Tu fais à peu près tout le temps les mêmes, mais au niveau visuel, c'est du pixel art somptueux. Musicalement, c'est un délice aussi. Ils sont allés rechercher le
Rainbow Dragon Eyes.
Et le compositeur de Chrono Trigger aussi, qui a composé quelques morceaux pour le jeu, dont le nom m'échappe maintenant.
Yasunori Mitsuda.
Oui, exactement.
Lui.
Donc, je crois que j'arrive gentiment au bout de Sea of Stars. Le jeu est assez long, je suis à une trentaine d'heures.
D'accord.
C'est très très cool. Et puis je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je vais pas m'arrêter. Enfin, je vais même m'arrêter. J'ai aussi fait Grand Blue Fantasy Relink que j'ai commencé. Bref, mais j'ai terminé après 140 heures de jeu Monster Hunter Iceborne. Et chef-d'œuvre absolu. Je l'avais pas terminé. J'avais pas terminé la quête principale et là j'ai terminé. J'ai tué le dernier monstre. Alors maintenant, c'est un jeu de farm, donc je peux y jouer pour l'éternité et me faire les plus belles armures de toute la contrée.
Mais tu es prêt pour le prochain dont le sous-titre m'échappe.
La suite spirituelle de World, je ne sais plus comment il va s'appeler, qui sortira en 2025, je crois, mais il y a Rise faire en attendant, que je n'ai toujours pas fait.
Maintenant qu'il est sorti sur PC,
c'est ça, et un peu plus beau.
Correct.
C'est ça. Même si je l'avais d'abord acheté sur Switch et que je l'ai racheté sur PC sans avoir lancé le premier au préalable, on est les mêmes. Je crois que c'est la malédiction du prénom. Mais voilà, Monster Hunter Iceborne, c'est, je crois, le DLC le plus gargantuesque que j'ai jamais vu. Enfin, il est aussi long que Monster Hunter World. Il y a autant de contenu, c'est autant soigné. C'est du porno. C'est Monster Hunter, pour moi, enfin, à partir surtout de Monster Hunter World, c'est vraiment du porno.
Donc, en un sens triple référence à des épisodes précédents, parce que tu peux relier Monster Hunter et Dragon's Dogma.
Ouais, c'est ça. J'avais
Dragon's Dogma, dont le deuxième sort dans quelques semaines, alors
c'est ça,
où
le
22
mars. Ouais. Ouh, je me réjouis.
Thomas est chaud comme la braise.
D'ailleurs, je refais Dragon's Dogma, figure-toi. C'est encore un des autres jeux auxquels je joue. Je pourrais dire que j'ai refait Shadow of the Colossus. Je pourrais dire que j'ai refait le jeu dont on parlera dans l'épisode suivant aussi, que j'ai terminé, parce que je me réjouis de faire le 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Et un autre jeu du même studio. Mais là,
que j'ai terminé aussi, d'ailleurs. Terminé.
On en regarde pour la prochaine fois, je pense.
C'est ça, que j'ai terminé entre temps. On a fait pas mal de jeux.
Ouais.
Bien, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode.
On peut s'arrêter là, ouais, il me semble bien.
On vous remercie de nous avoir écoutés.
Voilà, on vous remercie d'avoir supporté les avis clivants.
Surtout sur Shadow of the Colossus, je crois.
Écoute, à mon avis, ce sera mon Portal 2, celui-là.
Mais attends, je vais t'en trouver d'autres.
Je risque d'en entendre parler quelques fois de celui-là.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas aussi à nous conseiller des jeux, nous demander est-ce que vous avez fait ça ou ça, parce que pour vous, c'est des jeux importants et vous aimeriez peut-être qu'on les découvre
et qu'on
les fasse.
On n'est pas à l'abri d'un épisode spécial jeu choisi par la communauté.
C'est ça, la large communauté qui nous harcèle dès qu'on sort du travail et de notre domicile. Mais donc partagez l'épisode, mettez des petites notes à Semper Ludo Podcast si vous le pouvez sur les applications de podcast, et puis jouez bien, et on se revoit dans environ un mois.
On va peut-être plus trop promettre ce délai d'un mois, parce que finalement
on tient une forme de moyenne
un mois et demi, deux mois.
Très bien, allez,
à
bientôt,
la prochaine.
Ciao,
ciao.
Salut.